Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Votre quart d'heure américain.
Bonjour à tous, vous écoutez bien 2020, le podcast Made in America de l'agence France Presse. Antoine Boyer pour ce nouvel épisode spécial coronavirus. À New York, épicentre de la pandémie aux États-Unis, le Covid-19 a déjà fait des milliers de morts. Un bilan seulement provisoire et déjà largement supérieur à celui de l'attentat contre les tours jumelles du World Trade Center le 11 septembre 2001.
This is the most abnormal America I've ever lived in.
Times Square est méconnaissable.
It's called the invisible enemy, and that's what it is. It's an invisible enemy.
Je me trouve devant l'hôpital de Wyckoff Heights, situé dans le quartier de Brooklyn, à New York. Ici, on a pu voir, en l'espace de 50 minutes, 9 cadavres sortir.
Éléonore Sens est journaliste vidéo à l'AFP, elle vit à New York.
Ils étaient transportés sur des brancards par du personnel médical habillé en combinaison de protection. Et ces cadavres ont été transportés dans des camions réfrigérés. Alors ces camions réfrigérés, il y en a un peu plus de 80 qui ont été amenés à New York. Et ils servent de morgue temporaire pour pouvoir faire face à l'afflux de cadavres en raison de la crise du coronavirus.
Dans la ville, les pompes funèbres sont totalement dépassées. J'ai joint un responsable d'une maison funéraire dans un des quartiers les plus ravagés par la pandémie de coronavirus, le district de Corona dans le Queens. Oui, Corona, vous avez bien entendu, cruelle coïncidence. Cet homme souhaite garder l'anonymat et préfère que j'utilise le pseudonyme TH.
Normalement, on fait 2-3 enterrements par semaine. Et là, en ce moment, notre téléphone sonne 30-40 fois par jour pour des funérailles.
If I'm calling you and asking, si je vous téléphone après le décès d'un proche du coronavirus, pourriez-vous m'aider aujourd'hui? Would you be able to do that today?
No, I am at maximum capacity. I don't have the storage capacity for, you know, bodies like that.
Non, je n'ai plus de place. Je n'ai pas la possibilité d'accueillir les corps. Nous n'avons pas la place ni les ressources nécessaires pour aider des familles avec dignité. Nous avons vraiment besoin d'aide en ce moment.
Assistance given to us at this point. I mean, I can't tell you how many funerals or families we have to turn down because.
Je ne peux même pas vous dire à combien de familles nous devons décliner assistance, car nous n'avons plus de place. Tout est en shutdown, y compris les cimetières et les crématoriums. Ça prend des semaines pour pouvoir enterrer les morts avec dignité. C'est une situation catastrophique et la population doit vraiment écouter ce qu'on lui dit et ne pas croire que c'est une blague.
TH demande désespérément de l'aide de la ville, de l'aide de l'État de New York. Mais les autorités locales reconnaissent leur impuissance. Un élu du conseil municipal est allé jusqu'à évoquer l'enterrement de victimes dans des fosses communes si la situation ne s'améliorait pas. Le maire Bill de Blasio a aussi mentionné des enterrements temporaires pour tenir jusqu'à la fin de la crise. En attendant, le croque-mort de Corona, lui, continue de travailler.
Je suis en première ligne. C'est troublant, c'est tout ce que je vais dire, je ne veux pas trop m'avancer. Vous savez, c'est vraiment pas drôle à voir. Je viens d'enterrer un mari et sa femme en même temps. Donc c'est quelque chose qui résonne en vous, qui vous suit partout et qui reste ancré dans votre tête.
Now people are becoming numbers, and that's wrong.
Les défunts deviennent des numéros et ça ne va pas. Ils ne devraient pas devenir des numéros.
Ce trentenaire dénonce aussi le manque de clarté et de constance du protocole recommandé par les autorités sanitaires. Il affirme en tout cas prendre de son côté toutes les précautions possibles. Chaque jour, une équipe désinfecte les pompes funèbres à l'aide d'un produit chimique. Êtes-vous inquiet pour votre santé?
Je suis inquiet pour ma santé, oui, et je suis marié, je retrouve ma femme le soir, et j'ai peur de transmettre le virus à ma famille, à ma femme, mes amis. Les directeurs de pompes funèbres n'ont jamais vu une telle chose, c'est totalement inédit. J'ai 34 ans, je fais ce métier depuis que j'ai 22 ans. J'ai bien sûr discuté avec des directeurs de pompes funèbres plus âgés, et c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vu depuis l'épidémie du sida à la fin des années 70. Au début des années 80, ils n'y comprenaient rien. C'est la même chose maintenant. Nous nous battons contre un ennemi invisible. Nous sommes là pour aider et nous voulons le faire, mais nous n'avons pas de soutien, nous n'avons pas de reconnaissance. Je ressens le manque de reconnaissance de notre industrie ou pour les cimetières et les crématoriums. Tout ce que vous entendez, ce sont les applaudissements pour les personnels soignants. Je comprends, ils sont super. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, mais les gens ne comprennent pas que nous, nous sommes ceux qui interviennent après. Et vu que le bilan est en hausse, nous nous retrouvons dans une situation où nous ne pouvons malheureusement pas aider, et c'est un problème.
Dans mon quartier à Brooklyn, j'entends pas vraiment les applaudissements à 7h du soir, mais c'est probablement parce que c'est très espacé, il y a peu de densité d'habitation. En revanche, à Manhattan, oui, les gens se réunissent à leurs fenêtres à 7h et applaudissent le personnel médical. J'ai pu voir également des pompiers se retrouver devant un hôpital à 7h du soir, accompagnés de secouristes. Certains membres du personnel médical de l'hôpital sont sortis devant. Tout ce monde-là s'est retrouvé devant l'hôpital à 7h et a applaudi en l'honneur du travail qui est fait pour combattre la crise du coronavirus. J'ai trouvé que c'était un moment assez beau, surtout qu'on couvre principalement des nouvelles peu réjouissantes ces derniers temps. Et j'étais assez émue de voir tous ces gens se retrouver, applaudir. Et finalement, c'était un joli moment de communion et de solidarité humaine dans un moment compliqué pour la ville.
À New York, le personnel soignant croule sous l'arrivée des patients. Alors ces derniers temps, des hôpitaux de campagne ont poussé un peu partout dans la ville. Un navire de la Navy a accosté à Manhattan. Un hôpital militaire a ouvert dans un centre de conférence avec une capacité d'accueil de 2500 lits. Ces lieux devaient alléger les autres hôpitaux de la ville en prenant en charge des patients qui n'étaient pas atteints par le virus. Changement de plan, les autorités ont décidé de faire l'inverse. À Central Park, le poumon vert de New York City, l'un des premiers hôpitaux de campagne a été monté par une association évangélique.
Je sais qu'il y a des collègues journalistes qui ont bossé dans des zones de guerre qui disaient que ça leur rappelait des zones de guerre. Et d'ailleurs, le personnel qui intervient dans cet hôpital de campagne, c'est des gens qui sont plutôt habitués à intervenir à l'étranger, sur des zones de guerre, et certainement pas aux États-Unis. C'est ce que me disait un des médecins que j'ai interviewé, qui avait plutôt l'habitude d'installer ce genre d'hôpitaux de campagne en Irak ou dans d'autres pays qui sont en crise ou après des ouragans ou après des crises climatiques, mais pas en plein Central Park, pas aux États-Unis.
C'est surréaliste d'être ici à New York. Personne aux États-Unis ne s'attendait à une pandémie de cette ampleur. Mais nous, ce qu'on voit, c'est que les gens ont besoin d'aide, tout comme ils en auraient besoin à l'étranger.
Dans les hôpitaux de la ville, c'est un marathon qui se court, un marathon pour sauver des vies. En première ligne, les personnels soignants sont souvent épuisés, parfois en colère. Éléonore a assisté à une manifestation devant un hôpital du Bronx.
Les propos des infirmières étaient assez glaçants. Hein. Nous sommes en train de mourir.
We are dying. We are getting sick.
Nous tombons malades. Peu importe le nombre de respirateurs que nous recevons, si nous mourons et nous ne pouvons plus les faire fonctionner, cette question n'aura plus d'importance. Si les pneumologues, les médecins, les infirmières, les soignants en première ligne sont malades ou mourants, il n'y aura plus personne pour s'occuper des autres.
Une jeune interne de 28 ans disait « Mes collègues et moi sommes en train de rédiger nos dernières volontés et nos testaments, et j'ai seulement 28 ans. »
« Une situation sanitaire catastrophique, une ville au bord du précipice, New York compte ses morts par milliers. L'atmosphère est irréelle, les rues se vident et à Manhattan, les passants sont souvent masqués. Pourquoi la plus grande ville des États-Unis est-elle devenue l'épicentre de la pandémie ? Catherine Triomphe est la chef du bureau de l'AFP dans cette mégalopole de plus de 8 millions d'habitants.
D'abord, New York, faut quand même voir que c'est une ville extrêmement touristique et la plus internationale des États-Unis. Il y a plus de 60 millions de touristes par an qui viennent du monde entier. Ça circule énormément. L'aéroport de JFK Kennedy, c'est pas le plus grand des aéroports américains, mais c'est celui où arrive le plus grand nombre d'étrangers. Comme l'épidémie a quand même commencé ailleurs, ça donne une petite idée de la façon dont l'épidémie a pu arriver ici. En Europe, il y a beaucoup de villes denses comme ça, mais aux États-Unis, New York, c'est de toutes les villes de plus de 100 000 habitants, c'est la plus dense.
Est-ce que les autorités locales ont un peu tardé à réagir ?
Alors ça, c'est un des grands débats, hein, et je pense qu'il n'est pas prêt de se terminer. Ce qui est sûr, c'est que, par exemple, début mars encore, tu écoutais le gouverneur ou le maire de New York.
Excuse our arrogance as New Yorkers. I speak for the mayor also on this one. We think we have the best healthcare system on the planet right here in New York.
Ils te vantaient la qualité de leurs hôpitaux. Le 2 mars, Andrew Cuomo, donc le gouverneur, disait encore que l'épidémie pourrait pas être aussi grave ici que dans d'autres pays. Et alors, il y a un petit jeu aussi avec les autorités fédérales, hein, auxquelles on jette beaucoup la pierre ici, en disant notamment que les kits de tests qui ont été réclamés apparemment par les autorités new-yorkaises assez vite et ont tardé énormément à arriver. Donc, je pense que les responsabilités sont partagées, mais que ce serait un peu facile de dire juste que c'est la faute de Washington.
Une équipe de généticiens pense que le virus est arrivé d'Europe en février. Si une femme revenant d'Iran est bien le premier cas officiel confirmé dans la ville le 1er mars, impossible de dire qu'elle est le patient zéro de New York. Le deuxième cas confirmé est un avocat de New Rochelle dans la banlieue new-yorkaise. Il effectuait beaucoup d'allers-retours à Manhattan.
Cette petite ville de New Rochelle, donc, à moins d'une heure de Manhattan, c'est là que les premières mesures de confinement ont été prises par le gouverneur. Donc il annonce le 10 mars en fait, des mesures à l'époque assez extraordinaires. Ce qu'on dit maintenant, c'est qu'à ce moment-là, vu que cette personne avait eu beaucoup de, avait fait beaucoup de déplacements à Manhattan, etc., il aurait fallu que les autorités prennent ces mesures pour l'ensemble de la ville de New York, tout de suite. Et évidemment, ça n'a pas été fait. Ces premières mesures à New Rochelle, c'est le 10 mars. À New York, on n'a pas vraiment de mesures fortes avant le 16 mars. C'est la fermeture des écoles, la fermeture des bars et restaurants, etc. Et le confinement plus général, il intervient que le 22 mars. Donc là, il y a eu beaucoup de temps qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes estiment du temps perdu, pendant lesquels l'épidémie a progressé fortement sans qu'on s'en rende compte.
À New York, la pandémie est un marqueur social.
Les quartiers les plus populaires de la ville sont aussi les plus touchés. Donc, par exemple, les quartiers un peu chics de Manhattan, c'est là qu'il y a le moins de cas rapportés au nombre d'habitants, alors que dans le Bronx, par exemple, et dans les quartiers populaires de Queens, c'est là que le taux de contamination est le plus important. Pour faire juste une petite comparaison, il y a une différence du simple au double entre un quartier moyen de Manhattan et un quartier du Bronx.
Et comme dans tout le pays, les Noirs américains sont particulièrement touchés par le coronavirus. Globalement, à New York, le confinement est plutôt respecté, explique Catherine.
Moi-même, je suis allée voir sur une des stations les plus utilisées du réseau, vraiment au cœur des quartiers populaires de Queens, à l'heure de pointe d'un matin. Et franchement, j'ai trouvé que, bien sûr, il y a plus de monde que dans des quartiers plus chics où les gens peuvent se permettre de respecter le confinement ou sont tout simplement partis dans leur résidence secondaire. N'empêche que c'était globalement respecté, que les gens faisaient attention, que les gens portaient tous un masque. Après, quand il fait beau, les gens sortent plus. On voit les joggeurs peut-être courir un peu trop près les uns des autres. Mais on voit aussi quand même que les gens s'évitent physiquement, qu'ils font un effort. On entend les gens se répéter « attention, 6 feet », donc les presque 2 mètres qui sont la distance réglementaire ici aux États-Unis. Et je trouve que dans l'ensemble, on voit quand même que les gens font attention, même si c'est clair que c'est plus facile dans les quartiers où il y a moins de monde que dans les quartiers où les gens ont plus besoin de sortir, qui travaillent encore beaucoup.
Si le nombre quotidien de morts est toujours affolant, celui des hospitalisations baisse, un petit espoir qui reste pour l'heure encore très fragile. « C'était 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Un petit mot pour saluer le travail formidable accompli par mes collègues aux États-Unis, en France, en Italie, en Espagne, en Chine et partout ailleurs, qui continuent à aller sur le terrain, certes toujours bien équipés, mais dans des conditions difficiles. Et vous, prenez soin de vous et surtout, tenez bon. À vendredi prochain, Américainement Vôtre.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.